Comment raconter le monde? Comment raconter la France aussi? Quel mot choisir? L'invité du grand entretien ce matin, son métier, c'est justement de raconter notre réalité. Il est journaliste, romancier, il a dirigé le journal Le Monde et il s'est lancé dans des aventures de presse ambitieuses et folles. Il a fondé des titres qui sont devenus indispensables à tant de lecteurs. Un hebdo, le 1, des trimestriels, America ou Zadig. Bonjour Eric Fotorino.
Bonjour Ali Badou.
Et joyeux Noël, merci. Merci d'être au micro de France Inter. Les auditeurs de la matinale pourront dialoguer avec vous dans une dizaine de minutes. Le standard est ouvert. 01 45 24 7000. Vous connaissez le numéro ou l'application mobile de France Inter. Eric Fotorino, vous avez fait le choix d'un journalisme exigeant, d'un journalisme qui prend le temps, qui fait l'éloge de la lenteur, qui réfléchit et qui fait réfléchir. Et puisqu'on est dans un jour très particulier, le 25 décembre, jour de Noël, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce qu'on appelle dans le journalisme les marronniers. On les a rencontrés ce matin, les marronniers ça se cultive. C'est parler de Noël le 25 décembre en abordant des reportages à Bethléem, à Rome par exemple, suivre le business du Père Noël en Finlande et puis suivre les familles où l'on déballe les cadeaux. Ces marronniers-là, ils reviennent. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Fotorino? Qu'est-ce qu'ils disent à la fois du monde dans lequel nous vivons et de nous-mêmes?
Ces marronniers, c'est la peur du vide, en fait. C'est-à-dire que on veut meubler et les jours où l'actualité est un peu paresseuse, ou même elle nous paraît en tout cas vide, eh bien on se dit, il faut absolument donner une structure à quelque chose qui n'en a pas, parce qu'effectivement le vide n'a pas de structure, ou alors c'est que les scientifiques qui vous racontera, ou les physiciens. Et moi, je trouve que ces marronniers, ils ont à la fois quelque chose de rassurant, de sympathique, c'est un peu comme des doudous,
oui.
Et en même temps, ce qui est vertigineux, c'est que qu'est-ce qui nous empêche d'aller chercher des sujets qui sont vraiment de l'actualité, et je pense qu'il y a une sorte de d'éblouissement par le vide, c'est-à-dire que lorsque l'actualité ne s'impose pas d'elle-même, eh bien on a du mal à aller la chercher.
Qu'est-ce que vous dites quand vous parlez de la réalité, vraiment la réalité? On en a eu des exemples dans les journaux d'Inter depuis 6 heures du matin, ouais. Mais ça raconte aussi quelque chose, les marronniers. Il y a par exemple des enjeux géopolitiques quand on parle du chocolat en Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire, bien sûr.
Il y a des questions de solidarité, des questions qui interrogent notre société lorsqu'on suit le travail d'associations comme le Secours catholique, par exemple.
Oui, mais si vous voulez, pour moi, ces marronniers, c'est un peu comme la journée de la femme du 8 mars. C'est-à-dire que on se dit qu'on va attendre Noël pour parler de ça. Alors que la Côte d'Ivoire, je peux vous dire, moi j'ai commencé au Monde il y a très longtemps comme spécialiste des matières premières. À l'époque, c'était Oufouet Boigny qui était président de la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que le cacao, c'était une question quotidienne. On volait chaque jour une Côte d'Ivoire à la Côte d'Ivoire quand les prix du cacao s'effondraient sur le marché de Londres ou de New York. Donc je pense qu'attendre le moment où le chocolat est dans les pâtisseries pour en parler, pour moi c'est effectivement le symptôme de notre côté un peu pavlovien, c'est-à-dire voilà, on va
pavlovien,
en parler parce que c'est Noël.
Oui. Mais en même temps, c'est l'actualité du 25 décembre. De fait, Noël est actuel chaque année à la même date.
C'est vrai, Ali Badou. Mais alors, ça nous interroge, nous, dans notre métier, sur qu'est-ce que c'est que l'actualité? C'est-à-dire que, est-ce que...
C'est exactement la question que j'allais vous poser.
C'est ce que disait Hannah Arendt, c'est l'événement. C'est-à-dire un événement, c'est-à-dire quelque chose qui brise le cours normal des choses. Ou est-ce que l'actualité...
Qui échappe aux catégories habituelles.
Qui échappe, qui tout d'un coup fait surgir, justement, de l'imprévu. Ou bien c'est quelque chose de tellement prévisible que finalement on la caresse comme un gros chat qui va ronronner et tout le monde sera content. Donc si vous voulez, pour moi, l'actualité crée de l'éblouissement qui nous empêche de voir l'événement, c'est ça que je veux dire.
Vous avez choisi de créer des magazines et des hebdomadaires qui défient justement le rythme de l'actualité tel que nous la vivons avec les chaînes info, avec les fils Twitter par exemple et tout ce qu'on peut avoir sur nos téléphones portables ou nos écrans. Le 1 par exemple, c'est un hebdo, sans doute celui que cite le plus souvent revue de Claude Ascolevich dans sa revue de presse. Un seul sujet par semaine, c'est un mini-hebdo sur un sujet. Comment est-ce que vous le choisissez?
Alors, c'est intéressant parce que ça fait maintenant 5 ans et demi, donc on a fait près de 270 numéros semaine après semaine. Et quand j'essaie de définir ce journal, je dis justement que c'est un journal d'inactualité. C'est-à-dire que, bien sûr, que l'actualité, l'actu, comme on dit même, pour aller plus vite, me guide, je l'entends, je la regarde. Mais pour moi, je crois que tout est dit quand on se réunit le lundi en comité de rédaction. Qui est autour de la table? Il y a des journalistes, il y a des chercheurs, il y a des écrivains. Donc ça veut dire que vous avez des savoirs sensibles, ceux de la littérature, ceux de la poésie, Louis Chevalier par exemple, qui choisit le poème chaque semaine depuis 5 ans et demi. Vous avez des anthropologues, des sociologues, des économistes, des spécialistes de géopolitique et puis des journalistes. Et donc c'est l'intrication de ces savoirs-là, sensibles et savants, qui nous fait prendre l'actualité avec certains, c'était Gilles Deleuze qui disait il faut attraper les bonnes pinces pour attraper le réel. Ben on essaie d'attraper le réel avec des pinces qui sont pas celles d'une rédaction classique que j'ai bien sûr connue pendant longtemps.
Mais vous-même, vous avez cédé au marronnier de Noël en le traitant sous l'angle de la surconsommation par exemple, ou sous l'angle écologique.
Exactement, c'est-à-dire qu'on s'est dit cette espèce de fièvre acheteuse, hein, tous ces cadeaux, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a quelque chose dans le cerveau finalement nous pousse à la frénésie. Il y a un texte de Christophe André qui est vraiment très intéressant dans ce numéro.
Vous connaissez bien sur France Inter.
Que vous connaissez bien. Et donc voilà, c'est vrai que si vous voulez, je pense que décaler le regard fait que tout d'un coup, ce qu'on croit connaître, eh bien on le regarde autrement.
D'où vient cette passion pour la lenteur, Éric Fotorino? Prendre le temps, prendre du recul. Imaginez un journalisme qui passe par l'écriture, où l'on accueille des formes d'expression inhabituelles, les poèmes par exemple, des textes littéraires.
Bien sûr. Alors ça, les textes littéraires et les poèmes, pour moi, si vous voulez, je pense que les grands textes sont toujours d'actualité. Je veux dire par là que lorsque je fais un numéro, par exemple sur Ebola, et que je publie la première page de La Peste de Camus avec le docteur Rieu et les rats dans l'escalier, on est dans cette peur, on fait revivre cette peur. Lorsque sur les dictatures ou sur les régimes autoritaires, je publie La Boétie, le discours, un extrait du discours sur la servitude volontaire, je suis dans l'actualité qui a été pensée il y a plusieurs siècles. Pareil, récemment on a fait un numéro sur les populistes, on est allé chercher Aristophane pour montrer que finalement le charcutier du coin a toutes les qualités pour devenir un président ou un chef parce que ses parents étaient en effet corrompus, etc. Donc c'est très drôle. Donc si vous voulez, pour moi, l'actualité c'est pas ce maintenant. On est dans un, comme dit quelquefois Régis Debray, il l'a dit ici à ce micro, le présentisme, l'hyper-présentisme fait qu'on oublie que des esprits ont pensé. Oui, c'est-à-dire que le présent prend, se dilue de telle manière, se dilate de telle manière que on oublie le passé. Et très souvent, ce qu'on croit être nouveau, c'est des choses qu'on a oubliées.
Vous avez fait un magazine trimestriel America,
oui,
quand Donald Trump a été élu,
avec
vous l'avez
François
fondé
Bunel,
avec
oui,
François Bunel, qui va s'arrêter à la fin du mandat de Donald Trump. Alors,
oui,
peut-être en 2020, peut-être en 2024, on ne sait pas. Vous avez fondé un autre trimestriel, Zadig, qui là porte sur la France avec des grands reportages, des textes littéraires. Pourquoi? Parce que la France ne se connaît plus elle-même?
Oui, c'est-à-dire que j'étais dans l'idée que, je crois que ça a commencé, en tout cas, la manifestation la plus forte pour moi, ça a été l'élection d'Emmanuel Macron, puis après, bien sûr, les Gilets jaunes, donc des moments où ce pays ne se reconnaissait pas dans son miroir, miroir politique, miroir sociétal, et donc c'est vrai que j'avais envie du récit, parce que je pense que ce sont les mots qui recousent, et un tissu très particulier fait de 1000 récits, et c'est pour ça que je suis toujours très attentif à mêler à la fois des gens qui ont un savoir universitaire de chercheur et puis un savoir d'écrivain qui est plus dans la sensibilité et des poètes bien sûr et oui parce que on n'est plus, j'allais dire, il faut se réconcilier avec notre pays, mais pour se réconcilier. Avec la France, oui, je pense qu'on est fâchés. On est fâchés, les Français sont fâchés entre eux et sont fâchés d'eux-mêmes. Je pense qu'à force de ne plus se connaître, c'est comme ça qu'on se déchire. Et vous savez, on parle beaucoup de communauté maintenant, mais vous pouvez ajouter toutes les communautés numériques que vous voulez, vous ne ferez pas une société.
Pourquoi?
Parce que les communautés excluent. Les communautés, c'est de l'enfermement. Et à partir du moment où vous vous enfermez, c'est le geste exactement contraire à ce que je fais dans le 1. On le déplie, comme vous savez.
Oui.
C'est une gymnastique pure, avant même d'être une gymnastique de l'esprit. Et pareil pour Zadig, non pas qu'on le déplie, mais c'est vrai que quand je demande à Michel Pastoureau de raconter les couleurs de la France, ou que je demande à Jean-Paul Kaufmann de raconter son village de Cornu en Ille-et-Vilaine, donc on est dans l'intime et on est dans le savant. Eh bien, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, C'est pas un seul récit, mais c'est l'aboutissement de plusieurs récits ensemble qui donne justement cette presse particulière.
C'est une presse particulière. Jean-Claude Guillebeau, qui est journaliste, qui a été grand reporter, ouais, qui est écrivain également, parle aujourd'hui dans la Charente libre de son métier. Il dit en substance que la France est un paradis dont les habitants pensent qu'ils vivent en enfer.
Oui, bah d'ailleurs,
vous partagez le diagnostic, c'est aussi ce que dit Sylvain Tesson.
Exactement la même chose.
Oui, et qu'en revenant de ces grands reportages, Jean-Claude Guillebeau, de ces grands reportages dans des pays, sur des zones de conflit par exemple, ou dans des endroits extrêmement pauvres, lorsqu'il revenait en France, il était étonné d'avoir des réactions aussi négatives.
Bien sûr.
Qui s'exprimaient des Français sur leur propre pays.
Alors, j'ai tendance à partager cette opinion, hein, qui de Jean-Claude Guillebeau et que Sylvain Tesson a aussi exprimée. Maintenant, je crois qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est vrai que si on se compare à beaucoup de pays où les populations sont massacrées, où elles sont emprisonnées, où il y a beaucoup de privations de justement et de liberté, liberté d'opinion, ou même de dénuement matériel, il est évident que la France est un pays privilégié. Pour autant, je pense qu'on peut pas se contenter de cette réponse, parce que au sein de ce, justement, le tissu est déchiré en mille endroits, et je crois que pour moi un des événements quand même majeurs depuis un an, ça a été cette crise des gilets jaunes, oui, parce que c'était l'incompréhension des élites, si on veut aller vite. On a publié un texte d'Alessandro Baricco il y a pas longtemps dans Le 1, et il dit il y aura toujours les gens qui jouent du piano et ceux qui le portent dans l'escalier. Ben moi je pense que effectivement entre ces deux France, celle qui joue du piano et celle qui porte le piano dans l'escalier, il y a toujours cette distance et elle a tendance à se creuser.
Vous avez pratiqué toutes les formes de journalisme et notamment le journalisme sportif en suivant, vous êtes cycliste, le Tour de France. Comprendre la France, ça passe nécessairement par le vélo, par la grande boucle. C'est indispensable.
pour moi, c'est vrai que, vous savez, quand on suit...
Parce que là aussi, c'est l'éternel retour du même.
Oui, parce que le Tour de France, c'était très longtemps le Tour de la France. Et d'ailleurs, les parcours du Tour de France épousaient quasiment les frontières pour montrer, les organisateurs voulaient montrer que la France était un grand pays et on passait jusque, y compris dans les provinces qui avaient été annexées par l'Allemagne. Mais je pense, si vous voulez, que quand vous regardez les foules du Tour, elles sont à peu près les seules comparables aux foules de la Libération. C'est-à-dire que c'est la liesse et c'est le mélange incroyable de la société. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le curé comme le chef d'entreprise, les jeunes comme les vieux, et des gens qui ne se parleraient pas. Je me souviens du film Amélie Poulain où il y avait un dialogue très beau qui disait « L'amour, c'est comme le Tour de France, on l'attend longtemps et ça passe vite ». Eh bien voilà, il y a quelque chose d'un peu éphémère et en même temps qui s'inscrit très profondément en nous de ce que c'est que la France et ses reliefs.
Si on continue cette masterclass avec vous, Éric Fotorino, pourquoi est-ce que systématiquement, à la fin de l'année, on regarde dans le rétroviseur et on regarde ce qui a été important dans les mois qui viennent de s'écouler. On se projette également vers l'année qui vient et on le fait toujours dans cette période où le temps est suspendu, qu'on appelle d'ailleurs une trêve.
Oui, non, vous avez raison. Je pense que on a besoin, puisqu'on est des êtres datés, on a un début et une fin, et je pense qu'on a besoin de scander nos vies et que dans le flot d'informations qu'on connaît aujourd'hui, on éprouve la nécessité de faire une hiérarchie, de dire mais qu'est-ce qui a vraiment compté ? Parce qu'aujourd'hui, on a érigé en vertu la vitesse, et je pense que la vitesse, c'est exactement ce qui nous fait perdre connaissance. Comme un pilote de Mirage, quand vous interviewez un pilote de Mirage, il vous dit que le grand risque avec la vitesse, c'est de perdre connaissance physiquement. Ben, je pense qu'on a inventé des machines à accélérer l'information, qui font qu'aujourd'hui, si on ne fait pas ces bilans, on va finir par perdre connaissance.
Comment est-ce qu'on résiste justement à cette actualité filtrée, recommandée, peut-être même imposée par des algorithmes sur les réseaux sociaux ?
Moi, je pense que l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'artificiel et finalement peu d'intelligence. Je veux dire par là que moi, je fais confiance à l'humain. Évidemment, les erreurs humaines existent, mais pour moi...
À l'humain, voire à l'intime.
Oui, à l'intime, bien sûr, parce que l'intime, c'est là où quelqu'un se révèle, y compris dans ses contradictions. On est des êtres, si vous voulez, qui sont complexes, et on voudrait nous faire croire qu'on est binaire, qu'il faut dire oui ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc moi, je pense que l'humain, c'est celui que précisément aucun algorithme ne peut complètement calculer.
Comme écrivain, vous avez exploré votre intimité, celle de votre famille, celle de la filiation, avec des pères, avec une mère, dont vous avez raconté largement l'histoire dans un roman 17 ans qui va apparaître en poche dans quelques jours et qui va arriver en librairie. Vous explorez votre intime. Est-ce que c'est comparable à ce que vous faites comme journaliste? Est-ce qu'il faut aller explorer l'intime du pays ou est-ce que ce sont deux choses totalement séparées, voire contradictoires?
Bon, dans ma vie de journaliste, aucun de mes romans ou très peu sont inspirés de ma vie de reporter. C'est vrai que c'était ce que j'ai fait sur ma personne, c'était plus une quête qu'une enquête, mais j'ai utilisé quelquefois des moyens de l'enquête. Vous savez, lorsque pendant longtemps j'ai couvert l'Afrique au Monde et puis l'Amérique du Sud, et je me souviens, il y avait un reporter qui toujours quand il m'envoyait, il s'appelait Michel Boyer, il est mort maintenant, il mettait toujours sur mon bureau un roman. Avant que je parte, il m'avait mis Garcia Marquez quand je partais en Colombie, il m'avait mis La Marche de Radetzky quand je partais en Europe de l'Est, etc. Et finalement, ce qu'il avait essayé de me faire comprendre et que j'ai vraiment apprécié, c'est que un roman, l'épaisseur d'un roman, vous permet de rentrer dans le réel par la fiction, peut-être mieux que le réel. Et donc c'est ça, moi
mieux
je crois toujours à ça.
Oui, c'est étrange qu'un journaliste dise ça.
Mais oui, parce que si vous voulez, pour moi, le roman, c'est le lieu où vous allez avoir une sorte de révélation de l'indicible. À travers la fiction, voilà. Parce que vous allez avoir toute la complexité des sentiments, alors que le réel, bien sûr, tel qu'on l'a, vous parliez de Jean-Claude Guilbeault tout à l'heure, moi j'ai gardé encore des textes de Jean-Claude Guilbeault sur 100 mètres de trottoir à Calcutta, c'est vraiment extraordinaire ce journaliste. Là, parce que sur 100 mètres, il vous raconte l'Inde. Donc, si vous voulez, c'est un journaliste qu'on fait moins, ça ne veut pas dire qu'il a disparu, mais je pense que cette capacité, si vous voulez, pour moi, alors je vais vous dire, oui. C'est exactement l'école d'Edgar Morin. Qu'est-ce qu'il dit Edgar Morin? Il dit, on construit le savoir en silo. Eh bien, si on ne crée pas des passerelles entre les silos, on crée de l'ignorance. Eh bien, moi, je pense que cette manière de faire de journaliste, c'est-à-dire d'aller du plus petit au plus grand, eh bien, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, vous créez de la connaissance. Autrement, vous allez dans des rails qui vont faire que c'est étanche, ça va pas vous toucher.
Bonjour Nicole et bienvenue sur France Inter. Joyeux Noël.
Merci.
Vous avez découvert Éric Fotorino. D'abord, l'écrivain Fotorino.
Oui, bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Oui, moi, ce que je voulais simplement dire, enfin, pour moi, je trouve que c'est un beau cadeau de Noël de pouvoir lui dire que j'ai découvert un jour, je marche beaucoup à la séduction des titres et je trouve l'homme qui m'aimait tout bas, je dis ça, c'est formidable. Et puis, j'ai dit, tiens, c'est un gars qui s'appelle comme le journaliste. Je pensais pas que c'était le même. Et donc, j'ai découvert ce livre avec beaucoup de plaisir et d'émotion. Et à l'époque, j'étais encore enseignante, je l'ai fait connaître à mes élèves, je me souviens que nous avions travaillé sur, je crois me souvenir, parce que ça date un peu maintenant, de ce passage où il évoquait les vacances chez les grands-parents et qui se baignaient dans de grands bassins, et qui avait, c'était magnifique, et qu'on sentait la chaleur, un peu comme Camus peut l'avoir fait sentir. Et puis, voilà. Et après, j'ai lu, bien sûr, 17 ans. Et alors, moi, la question que je me posais, mais vous y avez un peu répondu, c'est-à-dire, je me disais, il y a un mouvement pendu entre le dehors et le dedans. Le dehors, c'est le monde du journaliste, avec quand même plein de bruit et de fureur. Oui. Et je trouve que, et peut-être que par moment, il envoie la sonde vers l'intérieur, peut-être pour se ressourcer et pour voir mieux ressortir dans ce monde qui est quand même bien difficile. Enfin, en tout cas, ce que je voulais simplement dire à M. Fotorino, c'est que sa lecture fait du bien. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci Nicole.
Voilà, c'est un vrai cadeau de Noël. J'ai bien fait de me lever tôt ce matin, Ali.
Et merci d'ailleurs d'être avec nous ce matin. Autre question sur l'application de France Inter, question que vous pose Jules. Avez-vous bien conscience que vous pouvez forger l'opinion entre guillemets, c'est-à-dire qu'en mettant en une de l'un de vos magazines, vous faites un focus formidable sur un sujet de votre choix.
Oui.
C'est la même chose pour les journaux de France Inter d'ailleurs, dit Jules. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique ou à cette suspicion?
Moi, je la revendique. Je veux dire par là que aujourd'hui, plus de la moitié des Français, c'est près de 80% pour les moins de 20 ans, s'informent d'abord sur leur mobile, Facebook, avec des algorithmes qui ont décidé ce qui allait être important. Moi, je revendique précisément mes choix éditoriaux. Nos choix éditoriaux. Parce que c'est ça. En fait, qu'est-ce que c'est un journal? C'est l'expression de forces contradictoires, d'idées contradictoires, de tensions, y compris non pas de tensions négatives, mais au contraire de tensions très stimulantes pour faire valoir des points de vue et pour se dire on va traiter de ça. Il n'y a pas longtemps, on a fait un numéro du 1 sur les Kurdes, par exemple. Eh bien, je savais très bien qu'en Kurde, ça marcherait pas. Mais je m'en fichais. Je voulais le raconter. Je voulais raconter ce qui s'était passé pour les Kurdes cette année et raconter l'histoire de ce peuple sans État depuis un siècle.
Mais ça, ce sont des choix parce que vous avez des projets que je qualifiais d'ambitieux et fous qui ont tous rencontré un grand succès, que ce soit un qui est un hebdo ou les trimestriels américains ou Zadig. Quand vous étiez le directeur du Monde, là pour le coup, quand on met un sujet à la une, lorsqu'on titre sur l'actualité, on peut forger l'opinion.
Bien
et
sûr.
On intervient dans le débat public, on intervient dans le débat politique.
Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de neutralité et il n'y a pas d'objectivité. Il y a l'expression de conviction, mais la conviction première, ça doit être le respect du lecteur et de respecter justement sa capacité à se faire son opinion. Donc moi, j'ai toujours, vous savez, de la même manière qu'on dit que les juges doivent instruire à charge et à décharge, je pense qu'un journaliste, il n'est pas là pour imposer une façon de voir, mais si demain vous allez en reportage au coin de la rue ou au bout du monde, forcément c'est votre regard qui va primer. Et donc à partir de là, c'est vous qui, bien sûr, par votre subjectivité, même si vous l'objectivez, vous risquez effectivement d'entraîner le lecteur là où vous voulez l'entraîner.
Donc Jules a raison, vous pouvez d'une certaine manière forger l'opinion lorsque vous êtes à la tête d'un média de référence.
Oui.
Je parle du Monde.
Bien sûr, simplement, on n'est pas dans un média unique, donc je pense qu'aujourd'hui, le pluralisme des médias, c'est pour ça que la loi Bichet de 47 qui a été revue ces derniers mois est importante, c'est que le pluralisme des médias fait que, et c'est pour ça que je considère moi, il y a un grand danger, aujourd'hui. Je prépare un petit texte là pour bientôt qui va s'appeler « La presse est un combat de rue ». Parce que je considère que plus les kiosques disparaissent, moins on voit les titres dans les rues, et plus des petits pans de la démocratie sont piétinés et
mais on les voit partout, en l'occurrence sur Internet. Le Monde que vous avez dirigé a retrouvé une santé au moins financière sur le web avec des publications numériques. Pourquoi c'est pas la même chose ?
Vous avez raison, Ali Badou, mais pour moi ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, vous parliez des algorithmes tout à l'heure, c'est vrai que le numérique ne hiérarchise absolument pas comme une rédaction ou comme vous qui allez faire votre journal, allez ouvrir sur tel titre et puis aller après les égrener. Donc pour moi, il y a nos journaux sont des journaux d'offres. Le numérique, c'est de la demande. Vous tapez sur un mot et puis vous allez avoir tout un tas d'occurrences, vrai, moins vrai, vérifié, moins vérifié, etc. Et puis ce qu'on appelle les putaclics, c'est-à-dire des titres racoleurs qui vont faire que finalement, parce qu'il y a de la pub qui est accrochée à ça, et à l'arrivée, vous n'avez pas la même hiérarchisation du sens que sur le papier.
Qu'est-ce qui serait aujourd'hui l'équivalent du Monde comme média de référence en termes d'information pour vous, Eric Fotorino? Est-ce que ça existe encore ?
Alors ça, c'est une question immense. C'est que je pense que les quotidiens ont perdu le combat du temps réel. C'est fini. Donc, si vous voulez, pour moi, ce temps réel, il est dans nos poches. Il est algorithmé. Moi, vous savez, quand je dirigeais Le Monde, je donnais le BAT à 10h30. Et puis, les rotatives ne parlaient plus avant
BAT,
le lendemain.
Le bon à tirer.
Et c'était 24 heures après. Une fois que j'avais le dessin de plantu, je pouvais rouler, comme on disait. Le cycliste aimait bien cette expression. Mais aujourd'hui, c'est pas 24 heures. C'est quelques secondes. Donc, si vous voulez, et toutes les infos se chassent les unes des autres, comme on disait en économie, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc pour moi, le média idéal serait celui qui décide chaque jour qu'il y a une histoire à raconter, il n'y en a pas deux. C'est pour ça que le 1, c'est un peu ça, même si c'est hebdomadaire.
Une fois par semaine.
Mais je pense qu'on ne peut pas capter l'attention du public de façon dans tous les sens.
Pourtant, vous troussez l'actualité immédiate que vous traitez, celle qui est la nôtre. Vous parlez de littérature, de poésie aussi.
Bien sûr.
Je vous ai demandé de choisir un poème, justement. Un poème qui éclairerait l'actualité que nous vivons, Eric Fotorino. Quel est-il ?
Alors, c'est un poème de Marguerite Yourcenar, qui s'appelle « Gare des migrants, Italie du Sud ». Elle a écrit au début des années 50 et je l'ai publié, donc je publie dans le 1 chaque semaine un poème. Et je considère comme Claude Roy, vous savez, la préface de Claude Roy de la Pléiade de Paul Éluard, Claude Roy dit « Les poètes sont les grands reporters du siècle ». Et il parlait d'Éluard pour ses lettres grecques. Et si vous voulez, pour moi, il y a une capacité du poète en très peu de mots de dire le réel à sa manière. Alors si vous voulez bien, je peux vous lire quelques vers de ce poème de Marguerite Yourcenar qui montre que finalement, elle était l'envoyée spéciale du 1 à Lampedusa. Voilà ce qu'elle écrit. « Fanal rouge, œil sanglant d'égard, entre les ballots mis en tas, longs hêlements, sanglots, bagarres, émigrants, fuyards, apostats, sans patrie entre les États, rails qui se brouillent et s'égarent, tantôt l'hiver, tantôt l'été, froid, soleil, double violence, l'accablé, la mer, l'hébété, ici plainte et plus loin silence, les deux plateaux d'une balance et pour fléau, la pauvreté. Bétail fourbu, corps épuisé, bloc somnolent que la mort rase, ils se signent, terrorisés, crient, jurons, œil fou qui s'embrase, ils redoutent qu'on les écrase, eux, les éternels écrasés.
Marguerite Yourcenar, lue par Éric Fotorino. Il y a aussi des interviews et on peut se souvenir par exemple qu'Emmanuel Macron, candidat, avait donné une très longue interview où il parlait de philosophie, où il parlait aussi de sa conception de la politique, du rapport des Français à la monarchie. Et c'est quelque chose qui reste. Jean-Luc Mélenchon aussi a donné une longue interview pour expliquer ce qu'était le mouvement, sa démarche avec les Insoumis. Oui. Vous interrogez les politiques, mais pour en retenir quoi au fond ? Non pas un commentaire sur l'actualité.
Non, je les interroge très rarement sur l'actualité, mais j'essaie de comprendre quelles sont à la fois les valeurs, mais aussi les motivations profondes qui les guident à intervenir dans l'action publique à ce niveau-là. Et c'est vrai, vous avez rappelé cet entretien avec Emmanuel Macron, il était encore ministre de l'économie à l'époque, et j'étais sidéré. De voir à quel point il avait réfléchi à ce qu'était l'exercice du pouvoir et ce qu'il appelait le geste imparfait de la politique. Et donc, à partir du moment, et il se vivait comme un traducteur entre la philosophie politique qu'il avait étudiée et l'action, et c'est en ça qu'il, justement, il avait appris la leçon de Ricoeur, qui regrettait de ne jamais être rentré dans l'action après mai 68, oui. Et lui voulait y aller même si il savait que l'action politique finalement salissait aussi les valeurs qu'on pouvait avoir.
Vous préférez le vélo, vous préférez la littérature et vous préférez le journalisme. Merci de nous avoir accompagnés ce matin, Éric Fotorino.
Merci.
On vous retrouve dans les kiosques, mais surtout en librairie avec 17 ans, ce livre qui paraît en poche dans quelques jours avec vos revues Zadig, America. Je vous souhaite une excellente journée et de très bonnes fêtes.